heureux. C'est bien ce que nous désirons tous, d'être heureux. Et aujourd'hui, nous fêtons ceux qui sont pleinement heureux, tous ceux qui sont au paradis et qui participent du bonheur même de Dieu. Dieu est infiniment bon, infiniment heureux. Et c'est ça le paradis, participer de ce bonheur du Seigneur. C'est la fête donc de tous les saints, ceux qui sont canonisés et ceux qui sont peu ou pas connus. Et ce bonheur les fait exprimer une gratitude envers le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cette vision de la Sainte Trinité, eh bien le Seigneur désire que nous puissions en bénéficier tous, de voir Dieu. Alors voir Dieu, mais les personnes qui sont mortes, on pourrait dire, sauf la Sainte Vierge, leur corps est encore en terre. Comment peuvent-ils voir Dieu? Ils ne voient pas Dieu par leur Dieu de chair, mais ils voient Dieu grâce à leur intelligence. Ils sont émerveillés, parce que l'âme a cette faculté de comprendre, ils sont émerveillés par la beauté et la grandeur de Dieu. Et nous sommes appelés à cela. Comme nous dit Saint Jean dans cette seconde lecture, nous le verrons tel qu'il est, le Seigneur. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Alors ce matin, je voudrais avec vous approfondir c'est quoi l'espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance, cette vertu? Et dans un second temps, voir deux contraires de cette espérance pour les éviter, c'est-à-dire la désespérance et la présomption. Tout d'abord, l'espérance n'est pas l'optimisme. L'optimisme, c'est quelqu'un qui a des sentiments plutôt de confiance vis-à-vis de l'avenir. Voilà, on est optimiste. On pense que cette année sera bien, sera bonne. En fait, c'est un sentiment, mais on ne sait pas en réalité ce qui se passera. L'optimisme, c'est simplement un sentiment. Parce que l'espérance, c'est espérer le bonheur éternel, pas parce que nous avons un simple sentiment, mais parce que Dieu nous l'a promis. C'est plus que l'optimisme. Et même si on est plutôt de caractère pessimiste, eh bien, nous ne nous accueillons pas, car on ne s'appuie pas sur notre caractère, mais sur la puissance de Dieu. Pour cela. Alors, l'Église nous a donné une prière qui est l'acte d'espérance que nous pouvons faire nôtre. Je vous la cite et je voudrais un peu la commenter. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde. Et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras, par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde. Voilà, ce qui nous aide d'abord, c'est les mérites de Jésus. C'est quoi les mérites de Jésus-Christ? Comme nous l'avons entendu dans cette première lecture, dans l'Apocalypse, ceux qui sont au paradis viennent de la grande épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de la vie. Nous sommes appelés à faire ce choix de la vie éternelle, cette cohérence de vie chrétienne. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. Alors, blanchir une robe par du sang, tout le monde normalement sait que le sang tache. Mais le sang de l'agneau, ce que Jésus a offert sur la croix, son propre sang, eh bien, nous blanchit du péché. Et c'est ça les mérites de Jésus. Jésus mérite sur la croix notre sainteté, notre vie éternelle, le pardon de nos péchés, et la grâce, la capacité de vivre en chrétien et donc d'accomplir les 10 commandements. Et la prière continue. Et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. On s'appuie sur la promesse de Dieu pour aller au paradis. Et Dieu tient ses promesses toujours. Dans l'Ancien Testament, il a promis un sauveur, c'est arrivé. Jésus a demandé et a promis à ses apôtres l'évangélisation du monde. Eh bien, nous-mêmes, dans cette Église, nous sommes la preuve vivante de la réalisation de cette promesse. Ils étaient 12. Plus des disciples, 120 personnes au départ, et maintenant nous sommes des millions, des centaines de millions, et cette promesse est réalisée. Alors, cette espérance, c'est un don de Dieu, une vertu théologale, mais comme c'est une vertu, nous sommes appelés à l'exercer avec notre propre liberté, et donc aussi à éviter le contraire qu'est la désespérance et la présomption. C'est quoi la désespérance? Bien, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on n'arrive pas à se convertir dans tel ou tel domaine de notre vie, on se décourage, on arrête nos efforts, j'arriverai jamais. ça fait 10 ans, 30 ans, 1 an que j'essaie de changer tel péché dans ma vie et je retombe encore. Et on se décourage. C'est ça la désespérance. On se décourage parce qu'on compte d'abord sur nos propres forces et pas sur Dieu. Quand on espère, eh bien on s'appuie sur les mérites de Jésus-Christ et on continue nos efforts, on n'abandonne pas et on s'en confie au Seigneur. Donc, évitons la désespérance. Une autre désespérance, par exemple, on a confié dans le passé des péchés un peu graves et on se dit encore, comme on y pense, on a cela en mémoire, qu'on ne sommes pas dignes du pardon de Dieu. C'est aussi une désespérance, car nous appuyons sur les mérites de Jésus-Christ, son sang qui blanchit les robes, c'est-à-dire qui purifie nos âmes. Et Jésus, sur la croix, est vainqueur de tous les péchés, quels qu'ils soient. Il est plus puissant que notre péché. Donc si notre mémoire nous accuse, ce n'est que notre mémoire, mais c'est Dieu le vrai juge. Et si nous avons confessé nos péchés, nous sommes vraiment pardonnés, rien ne lui résiste. Voilà pour la désespérance que nous sommes appelés à éviter. Maintenant, la présomption. La présomption, c'est par exemple ne compter que sur ses propres forces pour s'améliorer, pour être un saint, et pas sur Dieu. Alors, un des dangers, par exemple, c'est le développement personnel à la sauce Nouvel Âge. La méditation de pleine conscience, l'énéagramme, où on va compter sur des techniques pour s'améliorer, pas sur la grâce de Dieu. Et on réussit la technique et on dit c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais en fait, rien ne change vraiment. Ça, c'est une présomption. Compter sur une technique pour s'améliorer et pas sur la grâce de Dieu. L'autre présomption, c'est de penser qu'on est très fort et qu'on peut sans problème s'exposer aux occasions de péché. Par exemple, nous savons qu'une de nos relations est dangereuse pour notre fidélité en couple. Eh bien, plutôt que d'éviter cette relation, on va en profiter, on se croit fort. Ça, c'est aussi une présomption, c'est un péché contre l'espérance. Puisque l'espérance, c'est s'appuyer sur la grâce de Dieu et pas que sur soi. Une autre présomption, c'est penser qu'on pourrait aller au ciel sans observer les commandements de Dieu, parce que Dieu serait bon. Alors vrai, c'est vrai, Dieu est bon, infiniment bon, mais aussi il est juste. Pour comprendre un peu cela, imaginez une mère de famille qui fait un super gâteau pour ses enfants. Et puis elle aime ses enfants, et si elle le fait, c'est pour qu'ils le mangent. Et puis elle va dire aux enfants, si vous êtes sages durant le repas, vous aurez une part de gâteau. Et puis, en fonction de leur attitude pendant le repas, ils auront cette part ou pas, parce que cette maman est aussi juste. C'est pas qu'elle ne veut pas donner une part de gâteau, mais que la justice et la bonté ne sont pas contraires. Elles vont ensemble. Et c'est vraiment important, parce qu'il ne s'agit pas de se tromper et de penser que tout le monde irait au ciel, quelle que soit la façon dont ils vivent. Voilà ce que dit Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde. Il ne peut pas être accusé de manque de miséricorde. Elle voit dans une vision que lui donne le Seigneur l'enfer. Et elle voit qu'en enfer, beaucoup de personnes sont là qui pensaient que l'enfer n'existait pas. Donc pour aller au paradis, il ne suffit pas de dire que l'enfer n'existe pas, car c'est un vrai danger, au contraire, pour notre vie éternelle. Donc il y a une sorte de fausse vision de la miséricorde, une miséricorde sans justice. C'est le cas, c'est certaines personnes dans le synode actuel qui disent, par exemple, oh bien ceux qui les LGBT, etc., eh bien, l'Église doit les accueillir et laisser comme ils sont. L'Église doit se convertir et dire que tout comportement est bon. Alors c'est exactement l'inverse de l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus accueille les personnes en appelant à une conversion personnelle. Rappelons-nous de Zachée dimanche dernier, il y a 2 jours, où Zachée, collecteur d'impôts, Jésus ne lui dit pas « Écoute, continue à voler en collectant tes impôts ». Zachée est touché par la grâce qui vient de Dieu et il dit « Je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres et je rendrai 4 fois plus à ceux que j'ai volés ». Eh bien, c'est le cas pour tout comportement contraire à la Bible. Personne sur cette terre n'est supérieur à la révélation chrétienne qui s'est transmise par la Bible et la tradition. Tout comportement contraire à cela est appelé à changer pour être vraiment accueilli non seulement physiquement, mais aussi de cœur dans l'Église. Donc la fausse miséricorde. Alors que l'Église nous dit dans son catéchisme que le bonheur, la béatitude promise, nous place devant des choix moraux décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l'amour de Dieu par-dessus tout. C'est ainsi que Jésus nous dit dans cet évangile « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » pauvre de cœur, c'est-à-dire le refus de l'orgueil, de se gonfler, d'avoir un cœur riche, entre guillemets, de cette illusion de nous croire les meilleurs. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer, on peut le comprendre aussi comme, pas la tristesse pour la tristesse, mais pleurer nos péchés, voilà, pour être consolés par la miséricorde de Dieu, regretter nos péchés. Les béatitudes sont pour nous un chemin de sainteté, et c'est pour nous un exercice d'espérance. Voilà, quelles que soient nos difficultés dans notre vie, si nous aimons Dieu par-dessus tout, nous serons profondément heureux. Notre évêque nous donne en cette année, en conclusion, une année d'espérance, l'année Sainte Anne. Nous sommes appelés à faire grandir en notre vie cette vertu et à l'accueillir. L'Église nous dit que la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle protège du découragement, elle dilate le cœur dans l'attente du bonheur éternel. Que les saintes et saintes du ciel prient pour nous, eux qui sont déjà dans le bonheur du ciel, qui nous aident à vivre dans l'espérance. Amen.